Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs un entretien d'une heure avec les artistes qui sont dans l'actualité culturelle, ce soir avec Thomas Saraceno.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bêta, bêbé, bêbé, bêbé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis vêtue.
Marie Riche.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
À notre entrée dans l'exposition, c'est une voix qui nous aborde et pas vraiment un corps, puisque plongé dans l'obscurité après la grande clarté du hall du palais de Tokyo, nous ne voyons quasiment plus rien. « Je suis votre GPS », dit la voix en traçant un chemin de lumière pour nos pas. On entre ensuite dans une salle sombre où plusieurs toiles d'araignées vivent comme suspendues à nos souffles, dans des aquariums plus ou moins ouverts. Mais sont-elles peut-être des méduses? Sont-elles des réseaux de données? Sont-elles l'œuvre d'un artiste méticuleux? Et alors, quel serait leur chant? Car de voix ou de son, il est question dans votre dernier projet, Thomas Saraceno, dès le double sens du titre « On Air » qui désigne à la fois notre disposition à enregistrer le monde et celle à s'envoler. C'est à une improvisation collective que vous nous conviez au Palais de Tokyo à Paris. Nous, ce sont les êtres humains, la chaleur, nos corps, mais aussi les non-humains, les courants d'air, les araignées du bâtiment et les fantômes peut-être. Thomas Saraceno, bonsoir et bienvenue.
Hola, buenos días.
Bonjour.
Et c'est Paloma Goulmeau qui vous traduira vers le français. C'est une exposition très dense que l'on peut voir jusqu'au 6 janvier 2019 à Paris. On ne va pas pouvoir, je crois, l'évoquer entièrement malgré la grande aisance que nous offre cette heure de radio. Mais on va essayer d'en déceler des principes actifs, des principes créateurs, peut-être des espèces d'élan qui ont présidé à la réalisation de cette grande carte blanche que vous offre le Palais de Tokyo. Et on commence par du son. Thomas Saraceno, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on est en train d'entendre?
Estuvimos escuchando a David Rottenberg cuando lo invitamos al estudio.
Nous l'avons invité à Berlin dans notre studio.
Como tocar música o tratar de establecer una interacción
con una araña. De jouer de la musique, mais c'était de créer une relation avec une araignée qui était en train de tisser sa toile. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de repérer les vibrations et à travers ces vibrations, essayer d'établir une communication entre différentes espèces avec des rythmes divers. C'est toujours quelque chose que les musiciens aiment parce que c'est une sorte de défi qu'on leur pose.
En qué momento la araña también responde.
Va répondre l'araignée. Donc les musiciens se trouvent dans une situation où ils sont totalement désorientés parce que elle bouge pas, et il continue à jouer, et puis arrive un moment où et c'est au moment où il a posé la clarinette que l'araignée a commencé à réagir et qu'il s'est passé quelque chose. Et il a commencé à sentir ces vibrations. Donc on finit par oublier les instruments et la façon dont nous on les perçoit pour entrer dans un monde qui n'a rien à voir. Et comment peut-on composer à travers cela et comment on peut avoir ces perceptions qui n'ont rien à voir? Les araignées n'ont pas d'oreilles. Elles ne voient pas comme nous. Elles provoquent des vibrations beaucoup plus basses en tonalité et qui nous sont difficiles à percevoir. Donc nous avons un microphone très très sensible, nous mettons près de la toile d'araignée, nous pouvons ainsi capter ces sons. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre ce monde qui nous est complètement inconnu et obtenir ces fréquences et pouvoir les associer à différentes espèces.
Alors évidemment, pour nous qui faisons de la radio tous les jours et pour qui le fait d'enregistrer le monde est quelque chose d'extrêmement important, de parler dans des micros, d'enregistrer des paroles et des fréquences, c'est quelque chose de très quotidien. Lorsqu'on voit affiché en énorme on-air au Palais de Tokyo, on se demande quelle a été votre volonté initiale, Thomas Saraceno. Est-ce que c'était de ce côté-là, du côté de l'enregistrement ou du côté de l'envol et des airs?
Sí, yo creo que son las dos cosas.
Je crois qu'il s'agit des deux choses. D'abord, cette façon de... Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a les pieds sur terre ou qu'on ne les a plus?
Entonces, es como darse cuenta también
c'est
que
aussi
hay,
se rendre compte.
Uno puede decir, está flotando,
parfois,
volando
on
en el espacio.
Flotte, on vole dans l'espace. Et lorsque...
De la
tout dépend de votre
si estás como en un,
point de vue.
Reconocer como esos momentos de,
retrouver
de
un peu ces moments
de transmission,
de silence, de perception et puis pouvoir se situer dans ces moments et être présent dans ces moments. Et quelles sont les différentes présences qui vous entourent, ces réverbérations de son? Et puis, à travers ça, pouvoir établir cette communication.
Quelles sont les forces en présence? C'est aussi ce que se demandent les musiciens qui jouent en improvisation et décident de se rendre sensibles comme ça aux forces en présence, aux présences, aux fréquences. Et est-ce qu'il y a aussi dans cette idée d'imaginer une immense jam session dans le Palais de Tokyo, l'idée qu'on va tous pouvoir improviser? Vous, l'artiste, les spectatrices et spectateurs que nous sommes, les animaux que vous invitez, éventuellement le palais en lui-même et ses vibrations, peut-être les araignées du palais, peut-être les fantômes du palais. Est-ce que c'est une grosse impro?
Sí, sí, me fue muy interesante cuando empezamos.
Ça a été très intéressant lorsqu'on a commencé à travailler avec Christian Roland du Muséum d'Histoire Naturelle. Lorsqu'on a commencé à circuler dans le musée, on a déjà trouvé 10 espèces qui vivent au sein du palais. Alors on a trouvé 50, mais il y en a plus de 500. Donc quand nous on a commencé, il y avait déjà une population extrêmement importante d'autres espèces vivantes, oui, d'araignées, comme vous le dites tout à fait, et des toiles d'araignées d'ailleurs.
C'était un peu comme si extended cognition, non?
C'est comme s'il y avait des connexions étendues, réparties. C'est-à-dire qu'il est difficile de séparer, et c'est ce que j'essaie de faire à travers l'exposition, c'est de dire qu'on ne peut plus séparer les animaux avec les vies et avec le milieu dans lequel ils se développent, cet environnement dans lequel ils se développent. On ne peut plus faire de différence. Il s'agit donc de comprendre les relations qui lient les uns et les autres. Et c'est pour ça que j'avais parlé de jamming session, de cette session de bœuf en fait musicale. C'est-à-dire que nous sommes de toute façon présents d'une manière ou d'une autre et nous influençons sur des éléments que nous ne connaissons pas, que nous n'appréhendons pas. C'est-à-dire prendre conscience au final dans cette exposition d'éléments qui ne sont pas audibles. Par exemple, dans l'exposition, lorsque les araignées vibrent, il y a une autre œuvre que l'on peut entendre à partir d'un sol qui produit des vibrations. C'est comme s'il y avait un seuil. Nous, on a un seuil de 20. Et donc, avec ce qu'on a mis par terre, on a mis des fréquences de 6 Hz qui bougent beaucoup. Et toute l'idée, c'est de pouvoir harmoniser l'ensemble des différents éléments et avec des fréquences qui ne sont pas audibles mais qu'on peut sentir physiquement. Un peu comme si je peux, à travers cela, vous faire entrer dans un monde sensoriel auquel vous n'avez pas accès normalement, que vous ne pouvez pas entendre, mais que vous pouvez sentir.
Alors, on parle d'araignée comme si c'était une évidence, mais peut-être il faut en revenir un peu au début de votre travail, Thomas Saraceno. Depuis quand vous travaillez avec les araignées et est-ce qu'il est juste de dire que vous travaillez avec les araignées? Est-ce que c'est le mot que vous utilisez?
Sí, bueno, ya hace muchos años.
Bien, oui, cela fait de nombreuses années. Et puis, comment vous dire, j'ai toujours été obsédé par les toiles d'araignée. Et puis aujourd'hui, nous en sommes passés aux vibrations que provoque cette toile d'araignée. Il faut se rendre compte que la majorité de ces araignées qui tissent des toiles ne les voient pas.
de percevoir le monde
à travers
elles perçoivent ce monde
à travers de ce réseau de vibrations. Vous savez que, par exemple, lorsqu'il y a un moustique qui se cogne dans la toile, elle sent la vibration, elle sent dans ses pieds, dans ses pattes, pardon, qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est comme ça qu'elle voit. Alors, quand on a lancé l'œuvre, on s'est dit au début, et c'est ma façon de voir les choses, et je vais passer à l'anglais parce que c'est plus simple pour moi. Par exemple, j'étais en Argentine dans la forêt, je me promenais et j'ai un chaman qui me montrait en fait la route. Et tout à coup, j'ai commencé à entendre des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Et c'était le début de l'exposition pour moi, l'idée d'amplifier, de donner une résonance à cette expérience, que j'avais vécue pour la première fois. Et puis, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir accès à ces différentes sensations qui auparavant n'étaient pas audibles, n'étaient pas accessibles. Et c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose à côté de vous, ou une nouvelle technologie avec des câbles qui vous permet en fait de pouvoir faire. Et par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez des tribus qui arrivent à voir le comportement des fourmis à l'arrivée d'un tsunami. Et elles savent que les vibrations sont là et vont annoncer, par exemple, un tsunami. Et elles sont capables de s'enfuir en haut des montagnes. Donc je crois que nous sommes trop obsédés par la technologie comme le téléphone, l'iPhone. Et nous avons oublié de lire les comportements qu'il y avait autour de nous qui nous permettent, en fait, de nous associer à l'environnement. Par exemple, les araignées vivent dans notre monde est leur habitat, et donc il nous faut comprendre comment elles réagissent, et nous avons oublié d'apprendre à lire, ou nous le savions, mais nous avons oublié comment lire ces vibrations qui nous donnent des informations extrêmement précieuses, et puis et tout cela, ça nous rapproche de tous ces problèmes de l'extinction, du réchauffement climatique, et je crois que tous ces éléments sont essentiels si on veut avancer.
On y viendra bien sûr, mais peut-être pour rester dans ce début d'exposition où je disais tout à l'heure, nous sommes plongés dans le noir et c'est dans cette obscurité-là qu'on découvre ces immenses toiles d'araignées incroyables. C'est assez incroyable. Il y a vraiment une sensation d'émerveillement quand on rentre dans cette salle. Est-ce que nous plonger dans l'obscurité, au-delà de conserver ces œuvres-là à l'abri, c'est aussi nous mettre dans cet état dont vous parlez, Thomas Saraceno, où tous nos sens sont en éveil, où je le disais, moi, il y a une personne qui est venue me guider, j'ai entendu sa voix, mais j'ai senti son corps arriver sans le voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de nous plonger dans cet état?
Sí, hay un momento que a mí me gusta porque
il y a un moment que j'apprécie tout particulièrement.
En el opening, creo que hubo hasta 8000 personas.
Je crois qu'à l'ouverture, il y avait presque jusqu'à 8000 personnes depuis le début. Et tout le monde arrivait en même temps dans cette salle et il restait comme étonné. Comme il y avait ce silence. Et moi, j'adore quand on a l'impression que cette œuvre, elle parle. Elle a sa propre voix. Et puis il y a ce silence, cette curiosité. Et je pense que l'homme reste curieux quoi qu'il arrive. Mais d'une certaine façon, il y a ce silence qui est comme en écho dans l'espace. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir les gens, la façon dont ils perçoivent l'exposition. Peut-être c'est lié à l'obscurité, comme vous le dites, mais c'est aussi peut-être se rendre compte que c'est vrai qu'on passe trop de temps dans nos maisons enlever la poussière, enlever l'étoile d'araignée, à tout nettoyer. Et en fait, on oublie qu'il y a une présence, qu'il y a une vie qui est très proche, et nous ne nous rendons pas que c'est une vision très importante du monde qui apparaît avec cette toile d'araignée. Alors peut-être que lorsque les gens voient une araignée dans leur maison, ils disent « Ah Thomas, j'ai une œuvre d'art à la maison !» Donc c'est assez drôle en fait de voir comment les gens finissent par reconnaître que finalement cette chose qui nous dérange ou à laquelle on ne fait pas attention est une œuvre qui peut exister en dehors du musée. Alors, comment lutter contre l'arachnophobie? Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Toutes ces phobies même. J'espère qu'à travers, par exemple, cette exposition, les gens comprendront les araignées ou les autres espèces d'une autre façon.
Le silence et le calme dont vous parlez dans cette première salle, c'est aussi une sorte de silence et de calme comme une révérence, comme un respect envers l'ingéniosité incroyable produite par ce qu'on appelle le vivant ou ce qu'on appelle la nature. C'est-à-dire comme si d'un seul coup on se sentait aussi très petit, quoi.
Sí, bueno, uno de los intereses que siempre me apasionó en relación a la estela de araña es que muchos astrofísicos y físicos
adoré avec l'étoile d'araignée, c'est que les astrophysiciens ont toujours établi une relation lorsqu'ils simulent l'origine de l'univers avec le Big Bang. Il y a toujours pour une géométrie et comme analogie, ils utilisent toujours cette toile d'araignée en tridimensionnelle. J'adore cette analogie et j'aime ce que tu dis aussi parce que à chaque fois que je vois cette toile d'araignée, je repense à cette toile cosmique, quelque chose qui flotte perpétuellement et à travers la lumière, on voit, elle devient visible. Et donc, il existe cette connexion et on arrive à repenser cette relation ou même la hiérarchie qu'on avait établie précédemment. C'est peut-être l'idée de te dire, les en haut, de la pyramide, on a les êtres humains, un peu comme un arbre, et nous, on serait à la cime. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus entrelacé, c'est beaucoup plus complexe, cela évolue, cela change avec le temps. C'est une œuvre vivante également parce que c'est une œuvre d'art qui évolue tout au long de l'exposition. Moi, quand je suis passée hier, il y avait 2-3 araignées qui cohabitent et qui ont continué à travailler et elles avaient 3 nouvelles toiles qu'elles avaient ajoutées aux toiles existantes. Donc, c'est quelque chose qui change avec le temps. Et puis, la poussière de l'air qui vient se coller à ces différentes toiles d'araignées qui vieillissent et qui changent de couleur. Cela change.
Justement, je repose la question que je posais tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est un bon terme que de dire que vous travaillez avec les araignées?
J'aime à penser que las arañas me convencieron a mí.
Les araignées m'ont convaincu de travailler avec elles.
Me parece siempre tenemos que volvernos a insertar dentro de una red de relaciones
dans cette réseau, dans cette toile de relations. Ce n'est pas moi qui travaille, mais ce sont pas les araignées qui travaillent avec nous. Ça fait plus de 140 millions d'années que les araignées existent et qu'elles tissent des toiles bien avant que notre présence, nous les hommes, sur la planète. Donc je crois que c'est une leçon d'humilité avant tout. La première fois que je me suis approchée du musée, je me suis dit, bon, elles vivent dans le musée, elles sont là depuis bien plus longtemps que moi, on va leur donner un micro, on va les écouter, et elles ont sûrement des choses bien plus importantes à dire que nous, ce que nous avons à dire. Nous qui sommes sur la planète Terre, et là, on est en pleine anthropocène, et on ne se rend pas compte de ce qu'on arrive à produire et ce que l'on fait.
Connue de tout le monde, la toile d'araignée, la technique par fil, la technique par câble. C'est le fil tendu, c'est le filet. Nous avons un architecte extraordinaire qui travaille dans ce genre. C'est Frei Otto, l'allemand. On connaît ses réalisations. Ce n'est pas tout à fait la même technique, ce n'est pas la même mise en œuvre, bien entendu. Enfin, disons en gros, les réseaux tendus, qu'ils soient ce qu'on appelle le paraboloïde hyperbolique, c'est-à-dire des choses qui, à la rigueur, sont en béton, en ruban du câble, ou bien qu'il soit du câble tout seul, et Dieu sait si des constructions en câble, les hommes en connaissent. Je suis sûr que nous n'utiliserions pas la même logique d'intervention dans l'acte de construire une toile d'araignée. Et peut-être qu'alors on n'y arriverait pas si bien. Mais ce qui est extraordinaire aussi dans ce domaine, c'est que les oiseaux qui n'ont pas du tout la même nature de sécrétion de l'araignée, qui elle salive son matériau, le construit elle-même avec une espèce de filière, les oiseaux emploient des techniques aussi par câble, croisées, tissées et jusqu'à nouer.
C'est donc la voix de Claude Parent dans Les Après-midi de France Culture, diffusée en 1976, qui parle de sa vision d'architecte de cette élaboration que sont les toiles d'araignée. Alors vous disiez tout à l'heure, Thomas Saraceno, que depuis très très longtemps vous êtes obsédé par cette structure. Il se trouve que vous avez vous-même une formation en architecture. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire chez ces toiles d'araignée qui a à voir avec la construction?
Sì, è certo. Un architetto allemand también che si chiama Fraiotto.
Il y a aussi un architecte allemand qui s'appelle Fraiotto.
Ma il le citait, oui.
Il parlava d'elle.
Ah, sì, esattamente.
Tout à fait, il parlait de lui.
Non lo puoi escuchare.
J'ai pas entendu.
Una persona che sempre trattava di intendere come...
C'è qualcuno che si è di comprendere...
È come quasi impossibile, se un uomo tendrà a
pensare... La costruzione, c'è un po' se qualcuno dovrà avere dei fili tendus della même façon e poter la creare di questa forma, è totalmente impossibile. C'è vero che la nostra costruzione è limitata, perché noi abbiamo delle tensioni a calcolare.
Un poco l'approximazione ora che sto facendo con relazione
ce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est que en rapprochant donc cette technique à la technique de l'architecture, c'est l'architecture cosmique dont je parlais précédemment. J'ai travaillé avec le MIT, mais d'autres universités, d'autres instituts. L'idée, c'est de pouvoir scanner ces différentes toiles. Donc c'est un scanner qui passe à travers les toiles, et ce que l'on voit aussi dans l'exposition, et qui les illumine. Et à partir de là, nous passons des photos, nous prenons des photos et d'autres photos, et nous arrivons à reconstruire numériquement cette toile d'araignée. Donc il y a différents donc, éléments, il y a une partie de, où on travaille plus sur l'architecture, d'autres sur l'élément musical, on se concentre après sur les comportements animaux, avec le Max Planck Institute qui est l'autre institut avec lequel on travaille. Et donc tout ce travail de scan nous a permis de comprendre différents éléments, nous avons pu aller beaucoup plus loin à travers notre étude de ces toiles d'araignée. Il n'existe pas en fait une collection qui porte simplement sur les toiles d'araignée. Vous pouvez aller dans tous les musées d'histoire naturelle, vous trouverez l'araignée, mais pas les toiles d'araignée. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de prolonger cet apprentissage, cette connaissance, et on va voir ces musées d'histoire naturelle et on leur dit il faut quand même aller plus loin. Ils sont tous séparés. Alors on va voir l'homme, la femme, les espèces, mais on essaie de comprendre, nous, à travers, par exemple, les vibrations de la toile, quelle est la relation de l'animal avec la nature, avec les autres espèces et tout ça à travers les vibrations.
D'ailleurs, évidemment que à partir de ces toiles d'araignées qui sont presque le point de départ naturaliste, Thomas Saraceno, du parcours que vous nous proposez au Palais de Tokyo en ce moment, on arrive à des considérations beaucoup plus en effet technologiques, très modernes, sur des mappings de données par exemple, des manières de se repérer la pensée. Il y a certaines œuvres où moi j'ai vraiment pensé à des schémas mentaux, des manières de fonctionner aussi en rhizome, de organiser des sociétés autrement que par des hiérarchies, repenser les liens sociaux. On sent que, en fait, dans cette toile d'araignée, il y a peut-être des modèles pour nous, des modèles politiques, des modèles de pensée, des modèles d'archivage qui sont assez intéressants. Est-ce que c'est une sorte de déclinaison comme ça que vous nous proposez de vivre ?
Si, hay un... Hay unas obras también. Yo digo ahora con hay una obra que se llama Algoritmo, ¿no?
Il y a une œuvre qui s'appelle Algoritmo. Alors il faut dire qu'en espagnol algo ça veut dire quelque chose. Hein, algo c'est ritmos. Quelque chose.
Entonces,
et après
rythme
de rythme. Alors quels sont les rythmes que nous devons faire entrer dans les algorithmes informatiques pour pouvoir développer ces conversations. Moi je me dis toujours certains êtres humains, certains. Quand on revient par exemple à ces connaissances chamaniques dont je parlais précédemment, certains êtres humains donc sont très arrogants et nous disent eh ben non que nous rentrons dans l'anthropocène. Non, tous les êtres humains ne sont pas tous ceux qui provoquent le changement. Il y a d'autres êtres humains, il y a d'autres sorties. Et donc, l'idée, c'est de retrouver ces rythmes, ces quelques rythmes, ces algorithmes, comme on dit à l'espagnol. Et donc, et nous essayons de comprendre dans cette conversation que nous lançons, quels sont les différents rythmes. C'est un peu comme si on avait un Internet ou un traducteur entre les espèces. Alors, par exemple, on suit la particule de poussière dans l'air et on essaie de comprendre à quel moment cette particule nous permet de dessiner ces différentes trajectoires des particules, cette vie que l'on voit se représenter. Ce mouvement des particules, par exemple, elles peuvent peut-être nous permettre à un moment de comprendre, de traduire les jeux entre les différentes espèces ou les relations entre les différentes espèces. C'est comme si moi j'ai ce mot et je dis bonjour, bonjour, hola, hola en espagnol, les particules vont prendre une forme dans l'espace à travers de ce souffle. Et mon idée, c'est de savoir comment la particule peut traduire ce mot que moi je suis en train de dire. Par exemple, le chien va aboyer et il va aussi pouvoir provoquer un mouvement, des sons, et avec des systèmes de machine learning, donc de cet auto-apprentissage des machines, nous essayons de comprendre et de traduire ces différents mouvements et comment nous pouvons, à travers cette traduction, pouvoir être plus sensibles. Parce que, comme je vous le disais, nous avons plein de machines, nous avons plein de réseaux informatiques, mais nous voulons revenir en arrière pour réellement comprendre cette nature qui nous entoure et d'une façon totalement différente.
D'ailleurs, ce procédé de traduction, il intervient assez rapidement dans l'exposition puisque il y a plusieurs fils de toile d'araignée qui sont tendus. On les voit, on entre dans la pièce et on entend quelque chose et on apprend par le cartel que c'est la traduction sonore de l'image qui est faite de ces films qui est traduite en son. Donc c'est deux traductions successives, à la fois l'image qui est prise de ces fils d'araignée et ensuite le son produit à partir de cette image. Comme si vous nous permettiez de quoi passer d'un médium à un autre, Thomas Saraceno, de traduire les choses d'un premier médium vers un autre médium.
Sí. Y esa es la idea de también
c'est aussi l'idée d'avoir cette temporalité.
Que podemos escuchar también tenemos un live streaming.
Il y a aussi un live streaming
Virgo gravitational wave detector qui est en Pisa.
Qui est en fait
entonces, cada vez que dos agujeros negros colisionnent que son eventos que han ocurrido billones de años atrás también lo sentimos
qui rentre l'un dans l'autre, il y a une collision. En fait, le son est reproduit dans l'exposition, c'est ce dont on parlait, la jamming session dont je parlais précédemment.
L'idée, la pregunta que estamos tratando de hacer en
la exposición, c'est répondre à la question suivante.
En ce moment, es uno de los detectores de
nous permet de détecter des ondes, ces ondes cosmiques, et c'est vrai que cette technologie nous permet de ressentir ces ondes, mais les toiles d'araignée aussi. Et donc, la question est de savoir quand est-ce qu'on va donner un prix Nobel à une espèce non humaine, parce que ils peuvent détecter des choses que nous ne sommes pas capables de détecter à l'heure actuelle, et dont nous sommes totalement obsédés. C'est vrai qu'au final, on s'est laissé embarquer dans des discours.
France Culture par le thème Kincourt, Maria Riche.
On ne vit pas dans le vide, on vit dans un milieu ambiant, l'air, qui véhicule des vibrations, qui se propagent jusqu'à l'oreille externe, qui entre dans notre conduit auditif externe, jusqu'au tympan, une petite membrane, qui vibre sous l'action de ces ondes, qui transmet par une petite chaîne d'osselet cette vibration jusqu'à l'oreille interne. Et là, dans l'oreille interne, enfin, ce qu'on appelle la cochlée, transforme ces vibrations en impulsions nerveuses, qui sont transmises à notre cortex auditif via le nerf auditif. Donc, une petite vibration mécanique, acoustique dans l'air, est transformée en une petite impulsion nerveuse qui part dans notre nerf auditif et selon le niveau sonore, selon les fréquences, tout ça c'est codé dans notre nerf auditif et décodé par notre cerveau. Nous-mêmes on produit du bruit. Et notre cerveau comprendra qu'il y a un bruit extérieur lorsque ce bruit est supérieur à notre bruit interne. Et lorsque un signal arrive et passe au-dessus de ce bruit-là, pour notre cerveau, il devient audible. Mais il y a plein de choses qui sont en dessous de ça et qu'on n'entend pas. Notre cerveau ne les détecte pas comme des informations utiles.
C'est la voix d'Éric Lacaza dans un atelier de création radiophonique diffusé sur France Culture tout récemment et réalisé par Nathalie Battus, qui s'intéresse à des sons qu'il a précédemment enregistrés et qui à l'époque étaient inaudibles et qui par un procédé sont rendus là audibles et sont par conséquent diffusables. Alors Thomas Saraceno, cette idée-là que nous vivons dans un milieu et que ce milieu c'est de l'air et que c'est grâce à cet air-là que les sons circulent et que nous pouvons nous entendre, communiquer et parler, mais aussi transmettre les vibrations de la moindre araignée ou de la toile d'araignée, c'est quelque chose avec lequel vous jouez dès le titre, On Air, mais aussi beaucoup plus tard, puisqu'il y a beaucoup de choses dans l'exposition qui ont à voir avec cette idée-là, cette idée de l'air, l'air ambiant, l'air que nous polluons, l'air dans lequel nous pouvons voler. Vous, c'est un milieu, ce milieu aérien, qui vous intéresse autant que les toiles d'araignée depuis aussi longtemps.
Sí, ahí yo creo que hay parte de la exposición, después se va como articulando.
La exposición a la fin s'articule.
Comme simple, comme penser qu'est-ce qu'il y a dans l'air, non? Entonces,
autour de
alguna forma
cette question,
se va
qu'est-ce qu'il y a dans l'air,
cósmica, no? Hay 40 000 toneladas de
on part dans la partie cosmique, il y a 40 000 tonnes de, 40 millions de tonnes de particules qui rentrent, et puis il y a la poussière qui rentre dans l'atmosphère, et il y a cette poussière qui n'est pas la poussière terrestre, qui touche l'être humain tout au long de la journée. Et cette idée, c'est comment cette particule de poussière, comment est-ce qu'elle a un son, et comment elle peut... Alors évidemment, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et la façon dont elle rentre dans nos poumons, ces mini-particules qui opinent, ces particules nocives, ces particules dont on parle dans l'atmosphère, ces 2,5 nanomètres, ces particules infimes qui commencent à nous faire du mal à nos poumons, et bien les faire participer à cette jamming session, c'était un peu nous faire prendre conscience de son existence. Et puis il y a des impressions qui sont, font partie en fait d'un catalogue de production de la NASA de 1982, qui sont en fait des particules de carbone noir qu'on a pris de l'atmosphère de Bombay, et on s'en est servi pour faire des impressions. Donc toute l'idée, c'est de réutiliser au final des matériaux et de les réinsérer dans cette chaîne. Comme par exemple, il y a aussi des ballons tout en plastique dans l'exposition. Alors, on sait très bien que... que nous avons donc des éléments, des matériaux qui ont une vie très courte, alors qu'on pourrait leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus longue. Par exemple, le plastique que l'on peut, par exemple, associer, que l'on peut coller, et on en fait un ballon qu'on arrive à élever grâce à de l'air chaud dans l'air. Nous essayons de prolonger la vie de certains matériaux, voir quelle est leur réaction vis-à-vis de la température, quel est le mouvement qu'on peut leur impulser, et ceci en relation avec d'autres éléments. Et c'est là où on peut créer un nouvel imaginaire. Comment, par exemple, nous projeter, nous, dans l'air, sans émettre des particules ou des éléments qui vont affecter notre espèce. Alors, on a commencé avec l'aérocène et tout ça. Voilà.
Ah, bah justement, il va falloir nous parler un petit peu de l'aérocène en précision, parce que c'est un projet important dans cette exposition, Thomas Saraceno, et puis c'est un projet important pour vous, parce que c'est comme une forme de réponse, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Une forme de proposition ou de réponse aux questions que vous vous posez ? Déjà, essayez de le décrire.
Sí. L'aéroceno est comme une parole que nous inventons, nous ne savons pas bien ce que
c'est. C'est nous qui l'avons inventé, c'est un mot que nous avons inventé. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est. L'idée, c'est de faire naître des questions ou vous faire participer à un mouvement ou vous faire vivre dans une période qui sort de l'anthropocène. Alors c'est pour ça qu'il y a ce mot à l'extérieur. Et l'idée, c'est de vraiment provoquer une réflexion et comment changer notre époque, comment sortir de l'anthropocène. Et puis aussi, on veut que les gens aient envie de faire trop chose. Alors l'une des choses sur lesquelles nous travaillons, c'est cette idée même de l'air.
L'air,
c'est quelque chose qui nous entoure, que nous avons tous, et qui n'est pas mis en valeur. Je suis perdue. Je me suis perdue.
Vous étiez en train de dire que l'air, c'est quelque chose que nous avons tous.
Non, si, elle... L'air est une chose que si respiramos,
nous le respirons tous.
Air.
Et il y a un livre qui s'appelle When Breathing Becomes Air. Et c'est un titre qui m'a toujours beaucoup inspiré.
Visible quando,
et l'air devient visible
exemple, explota la bomba atomique
lorsque
Fukushima,
la bombe
atomique
explose. Hiroshima, on voit ces particules. Par exemple, et là on comprend les courants d'air. Et nous, nous avons compris cela quand nous avons essayé d'apprendre à flotter dans l'air sans émettre ces fameuses particules nocives pour l'être humain. Il faut repenser qu'il y a plus d'un million de personnes chaque jour qui volent dans les avions. Et c'est un peu de voir comment nous pouvons être dans l'air sans produire toutes ces particules, ces émissions qui sont extrêmement nocives et qui finissent par affecter notre vie à tous.
Alors vous parvenez à voler dans les airs justement en ne produisant pas cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience que vous avez faite et dont on voit à la fois des images mais aussi du matériel utilisé, Thomas Saraceno? C'est vrai que c'est l'une des images très belles avec lesquelles on repart, c'est que c'est possible.
Si, Il
faut aussi vous rappeler que nous sommes inspirés de Montgolfier, des frères Montgolfier, qui aussi ont volé. Mais la façon dont ils l'ont fait, c'est en consumant une énergie fossile. Ce que nous voulons proposer, c'est comment nous allons voler sans qu'il y ait une combustion de ressources fossiles. Alors donc l'idée, c'est que donc c'est de chauffer l'air et avec l'air, ils arrivaient à voler. Ça, c'est les Montgolfier. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se déplacer. Nous, ce que nous essayons de trouver, c'est une solution ou justement de ballon que nous construisons. Il n'y a pas donc en fait de réchauffement de l'air. L'air est chauffé par le système solaire, par la lumière du soleil, et nous laissons le soleil donc nous chauffer, et nous avons donc réussi à s'élever les ballons. Et nous avons fait ça dans le désert où a été explosée pour la première fois la bombe atomique, où ont été faits les premiers essais, sans qu'il y ait de matière fossile qui soit brûlée. Donc c'est très simple, c'est accessible à tous, et c'est quelque chose qui est autour de nous, cet air. Et puis le soleil, c'est toujours autour de nous. C'est quelque chose que l'on peut utiliser facilement, non? Alors parfois il y en a plus ou moins, ça dépend si on est en hiver ou si on est en été, où on se trouve. Mais l'idée, c'est comment s'élever dans l'air sans en même temps polluer. Repenser, voilà, il faut arrêter cette addiction que nous avons aux énergies fossiles. Il faut repenser tout cela et puis il faut réapprendre à flotter. Il faut penser à ces rivières de courants. Hein, et alors comment pouvoir donc flotter dans l'air en suivant ces courants d'air, naviguer et voyager autour du monde. Et c'est toute l'idée de tout ce qui va autour, cette idée de flotter dans l'air. Et c'est ce que nous avons fait avec le MIT, mais aussi avec d'autres instituts, essayer de voyager dans l'air en se servant des courants d'air.
Et alors j'en reviens à ce que disait Éric Lacaza, c'est-à-dire rendre audibles des choses qui ne le sont pas. Vous parlez aussi de rendre visibles d'une certaine manière des choses qui ne le sont pas, puisque l'air autour de nous le plus souvent est invisible. C'est quelque chose qui serait au centre de votre travail artistique actuel, Thomas Saraceno, faire passer des choses dans l'air du vivant, de l'invisible au visible, de l'inaudible à l'audible?
Si. Me parece muy bien.
Je trouve ça très bien dit.
Si, estamos. Si, estas. Si, d'entender dónde vivimos.
Comprendre où on habite, en gros.
Y entenderlo juntos.
Et comprendre ensemble.
Agval, il y a 2 ans, j'ai fait une installation vidéo de 1350 m². Et j'ai été aidée par l'IRCAM pour réaliser justement cet environnement sonore. Il y avait 28 sources sonores. Et c'était vraiment complètement, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais entre guillemets, un art total, c'est-à-dire que permet la vidéo. C'est le rêve. Bon, ils ont, Wagner a souhaité le faire à l'opéra, mais là, nous, avec les moyens modernes, on peut vraiment arriver à ça, à cette immersion dans le son, dans l'image, et surtout qui permettent de vivre avec son émotion. Un problème de notre société quand même.
C'est la voix de Tania Moureau, une artiste française qui était venue nous parler de son travail il y a quelque temps à ce micro-là, Thomas Saraceno, peut-être pour aller avec vous plus du côté de l'expérience sensible et artistique que vous proposez. On a beaucoup parlé de des techniques, des intentions, mais il se trouve que nous voyons des choses, nous observons des choses, il y a des formes qui naissent. C'est une carte blanche au Palais de Tokyo, donc vous vous installez dans un espace. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Est-ce que, par exemple, le caractère immersif dont parlait Tania Moureau est l'une de vos intentions?
Nous avons travaillé avec l'IRCAM.
300 parlantes et plus de 7 km de câbles dans
le Palais de Tokyo. Qui fonctionne avec plus de des kilomètres de câbles. Donc, par exemple, vous avez un événement qui peut avoir lieu et qui a eu lieu il y a des centaines de milliers d'années-lumière, et on peut le recréer, le retransmettre. Quels sont les rythmes qui nous permettent de produire une réponse? Il ne s'agit pas seulement du rythme provoqué par l'humain, mais le rythme d'autres espèces. Une de nos idées, c'est de submerger, d'immerger la personne sur ces connexions, pas seulement sur des événements qui ont lieu au Palais de Tokyo, mais des événements cosmiques, des événements cosmiques bien beaucoup plus loin, que l'on pense ne pas nous affecter. Moi, ce que j'aime, c'est cette immersion cosmique. Avec tous ces éléments, toutes ces technologies, je reviens sur mes particules de poussière qui voyagent sur des centaines de millions de kilomètres. Eh bien, cela nous permet, en fait, avec toute cette technologie, d'amplifier et transporter ces particules de poussière et de les passer à un micro, à un autre micro, à un autre macro. En fait, il y a tout un écho qui est créé, et on peut recréer cet écho avec les différents micros sur 50 mètres. Et en entendant seulement la poussière, mais on entend aussi la respiration des uns des autres, puisqu'on souffle nous-mêmes sur cette particule. Il y a même le rythme cardiaque qui est retranscrit. C'est cet effet d'immersion. C'est un lieu où on rentre et dans lequel on participe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment le voir de l'extérieur. Vous êtes immergé dans cette sensation et dans cette salle. C'est ma façon de dire que la nature fait partie de nous et que nous pouvons nous en séparer. Et nous participons à tout cet écosystème et à toute cette nature. Et donc, difficile de ne pas nous y reconnaître dans cette nature si nous en formons partie.
Il y a même une installation qui occupe une très grande pièce dans cette exposition où vous proposez aux visiteurs, visiteuses d'entrer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette installation-là, Thomas Saraceno? La grande, grande, grande toile. Dans laquelle les gens rentrent.
Ah, si, exact. Unas redes que están construidas con la gente cada vez que toca uno de estos hilos
qui sont construits comme en toile araignée, et lorsque les gens touchent ces fils, cela amplifie le son.
Que todos los objetos alrededor
nuestro,
a partir de del movimiento que producimos sobre
selon
ellos,
le
se
mouvement
sonifican.
Que nous entonces, produisons autour d'eux produisent un son. C'est comme ça un peu si vous rentriez dans un monde d'éléments connus et inconnus, et ces éléments s'animent des vibrations que nous provoquons.
Piso,
c'est là aussi où il y a ce sol dont je vous parlais qui produit des ultrasons très très bas qui se connectent avec ces toiles, enfin avec ces fils tendus comme une toile d'araignée. Et moi je peux dire
et
on retrouve les vibrations aussi, non seulement ces vibrations que ma voix provoque, mais aussi les vibrations du sol selon que moi je marche. Et c'est un peu comme si on avait un instrument vivant énorme, une énorme guitare avec différentes cordes.
Cada forma que, porque
Je reviens, quand on a par exemple un jamming, un buff, chacun a son propre instrument. Et l'un l'autre, nous nous influençons. Mais là, ça n'a rien à voir, puisqu'en fait, les connexions sont beaucoup plus compliquées. C'est un seul et même instrument que beaucoup de gens peuvent jouer en même temps. C'est la différence, par exemple, que si on avait un ensemble musical composé de différents instruments. La façon dont moi je touche, je fais de la musique, va intervenir sur la façon dont d'autres personnes interviennent sur la toile et sur les différents éléments qui provoquent de la musique.
Et par conséquent, nous mettre encore et encore en réseau, à la fois entre êtres humains et avec les araignées dans le coin, ou aussi avec ce lieu-là. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est la première fois que vous investissez un lieu aussi grand en proposant une programmation et une production aussi importante, Thomas Saraceno? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça a produit? Est-ce que vous pouvez me parler de ce travail-là dans votre parcours artistique aussi? C'est-à-dire, d'un seul coup, la carte blanche, c'est vous avez le palais de Tokyo pour vous. Est-ce que c'est vertigineux? Est-ce que ça fait peur? Ou est-ce que vous vous êtes dit, OK, super partie de plaisir?
No, sí, cierto. Al principio siempre me da un poco de miedo, pero
au début, c'est un peu effrayant.
Me parece también en la forma de nombrar toda la gente que participó en
surtout
el palais
lorsque
de Tokyo,
j'ai dû
más de
présenter tous les gens qui ont participé. Il y a 300 personnes. Et donc c'est vrai que alors on a donné tout le nom des araignées, toutes les particules, tous les gens, tous les musiciens. Il y a un concert qui va avoir lieu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui vont participer à cet événement. C'est peut-être la peur qui fait que j'ai besoin de m'entourer de beaucoup d'amis, d'artistes, d'araignées, de toiles d'araignées, de poussière. Et donc je me sens entouré de vie et beaucoup moins seul. Lorsque tu illumines la poussière qui existe dans le palais de Tokyo, tu te rends compte qu'il y a des œuvres d'art qui t'entourent partout, qu'il y a des toiles d'araignées partout dans le palais de Tokyo, et de se dire que l'œuvre elle était déjà présente, il faut simplement la révéler au public. Même chose avec l'instrument dont nous parlions précédemment, dire que l'art il est là. Et c'est vrai que j'ai besoin de me sentir accompagné, de ne pas être tout seul dans ce grand espace.
Il y a aussi quelque chose qui emplit l'espace, vous en parliez très brièvement tout à l'heure, mais à un moment donné, on prend un escalier, c'est quasiment au moment où on s'apprête à sortir de l'exposition. Ce sont des sortes de sacs plastiques qui sont soudés les uns avec les autres, qui forment un très très gros ballon coloré. On sent aussi que dans ces gestes artistiques, Thomas Saraceno, vous vous êtes demandé comment c'était possible de prendre de l'ampleur, quoi, d'occuper cet espace avec de l'air, presque en respirant d'une certaine manière.
Sí. La obra se llama Museo Aerosolar. Entonces,
c'est le Museo Aerosolar. C'est le nom de cette
museo
œuvre.
Que vuela,
un museo c'est un volador. Musée qui vole.
Entonces, fue un trabajo que empezó
donc,
en 2007,
c'est un travail que j'ai initié en 2007.
Bueno, propuse una vuelta j'ai que m'invitaron a Italia,
proposé cela à un groupe d'activistes, surtout de gens qui étaient là pour défendre en fait, différentes idées, des militants. Et ils avaient cette idée aussi, ils trouvaient ça très intéressant, c'était de travailler avec des ballons. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de sacs plastiques partout qui étaient accrochés aux arbres. Enfin, on connaît bien ça, tout ça, dans notre environnement. Ces sacs plastiques qui sont partout. On se dit, pourquoi on ne va pas commencer à aller dans un parc et puis enlever les sacs plastiques? Alors, on les a pris, on les a lavés, on les a collés les uns avec les autres. Et puis, on a commencé à réfléchir à ce musée volant. Et puis, je crois qu'il y a 21 pays dans le monde entier qui ont participé à ce projet. Et les gens ont commencé. Et puis, le musée volant a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Et dans le palais de Tokyo, je crois que tout au long de ces trois mois, l'idée est d'apporter des sacs plastiques qu'on va réutiliser. Après, ils peuvent dessiner sur les sacs plastiques. Et après, on fait un canevas. Alors l'idée, c'est qu'en fait, nous fermons, c'est-à-dire qu'on donne un volume à tous ces sacs plastiques, et quand le soleil tape, cela chauffe et donc le ballon se gonfle. L'idée, c'est une façon ingénieuse et facile de réutiliser les sacs plastiques, un peu de réutiliser ce qui est notre vie, et puis faire quelque chose de ce plastique qui finit par contaminer, polluer les océans, mais aussi polluer notre environnement. Et c'est une chaîne vertueuse qui nous permet d'aller de l'avant.
I think the great challenge of this moment is imagining another kind of future.
Alors le grand défi, c'est d'arriver à imaginer un avenir différent. Car en fait, on a encore le temps de réagir à cette crise climatique, mais il faut modifier radicalement nos valeurs. Et ironiquement, jusqu'à présent, la manière dont on a essayé de réagir ne fait que renforcer l'idée selon laquelle nous ne sommes que des individus consommateurs, que notre vie se résume à ce qu'on achète. Or, on est bien plus que ce qu'on achète et on peut agir ensemble. Et on voit naître ce type de mouvement, notamment chez les jeunes. Ça me réjouit, ça fait chaud au cœur de voir la nouvelle génération de militants pour le climat. Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement pour le désinvestissement des combustibles fossiles. C'est un mouvement très jeune, mais qui a bien pris sur des centaines de campus universitaires et auprès des municipalités.
Ça pourrait être le musée gonflable qui parle, mais en fait, c'est un montage de Lise Marie Barré à partir d'expérimentations qui ont été menées aux Utopies Sonores 2018 d'un microphone accroché à un stéthoscope pour enregistrer, par exemple, sous l'eau. Et juste avant, j'imagine que vous avez reconnu la voix de la militante et essayiste Naomi Klein. On a un petit peu abordé la question de la question politique avec vous, Thomas Saraceno, mais à la fin de l'exposition, elle se précise puisque vous ouvrez un espace collaboratif où les visiteurs et visiteuses peuvent réfléchir, manipuler, éventuellement créer des choses, inventer des nouvelles façons d'être au monde et de s'insérer dans le réseau du vivant. Cette imbrication entre votre travail artistique et une sorte d'élaboration d'une pensée politique ou en tout cas d'un éveil des consciences, pour vous, elle va forcément de pair ?
Sí, no, sí, creo que sí. Y una cosa importante también que esa parte
oui,
del museo.
Et surtout, il est important que cette partie de la visite.
Más de 500 entradas gratis.
Je crois qu'il y a 500 entrées gratuites. Il faut que je dise, si vous voulez rentrer dans cette partie du musée, il ne faut pas payer pour voir le reste de l'exposition. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette possibilité. C'est-à-dire, on ne peut pas rendre tout le musée gratuit, mais on peut rendre une partie du musée gratuit. Et il faut, c'est comme un petit pass qu'on peut vous donner. Vous pouvez revenir le nombre de fois que vous voulez. Pas simplement une fois, mais le nombre de fois que la personne veut. Donc, en fait, une partie du musée est gratuite, est accessible. Cette fin d'exposition et c'est vrai qu'au sein de cette partie-là, on peut développer les conversations que l'on a avec le projet Arosen. Et donc, il y a ce Fab Lab. Et puis, c'est quelque chose qui se développe en même temps de conférences qu'il y a par exemple à Paris. Et puis, on a un service postal de courrier, donc volant. C'est quelque chose que nous sommes en train de travailler avec Air Paris aussi là-dessus. Ils ont des stations de captation en fait tout au sein de Paris. Nous voudrions utiliser ces points de calcul de où il y a des senseurs pour pouvoir en fait vérifier la qualité de l'air non seulement au niveau terrestre mais aussi bien plus élevé dans l'air, un niveau beaucoup plus haut atmosphérique. Nous voulons aussi créer des microphones pour pouvoir entendre ce son de l'anthropocène. Et puis il y a des tables où les gens peuvent avoir prêté donc un sac à dos et dans le sac à dos il y a un cours d'introduction donc avec le sac à dos qu'on leur prête selon le niveau de soleil ils peuvent grâce à ce sac à dos essayer de décarboniser l'air avec une activité qui est toute simple qui est simplement de se balader avec son sac à dos quoi et j'espère que ça va se développer et que ça va se répandre.
Et d'une certaine manière, dans ce laboratoire-là, c'est une sorte de continuation de votre exposition. Thomas Saraceno, vous avez l'impression que c'est un travail qui n'a pas fini de se faire, qui continue de s'élaborer, comme la toile d'araignée, en fait, continue à se tisser. C'est comme ça que vous le voyez ?
Oui. Me gusta la analogie.
Oui, j'aime bien l'analogie que vous avez présentée. Oui, la métaphore est parfaite.
Oui,
c'est un travail en progrès, c'est en cours.
De la collaboration, de la participation, de l'articulation.
Une collaboration, une participation de tous, travailler tous ensemble. Et c'est en faisant cela que l'œuvre prend un autre tournant, un autre tour. Et oui, il y a un autre chemin.
Le 27,
je crois, si c'est bien ça, le 27 octobre.
Un moment que vient Bruno Latour. Vincent Desprez,
il y a d'autres artistes donc, qui vont être présents, qui vont faire des conférences.
Me parece amplificar et nous allons
peut-être amplifier, distordre ce qu'est l'exposition et lui présenter d'autres perspectives. Et à mon sens, c'est quelque chose d'essentiel. Je vais peut-être même être provoquant en disant comment ensemble nous pouvons penser d'une manière différente.
Mais puisque vous parlez de Vinciane Després ou de Bruno Latour, qui sont des grands essayistes, des personnes qui depuis des années pensent cette question du réseau du vivant ou de l'anthropocène pour ce qui est de Bruno Latour, d'un seul coup, votre proposition artistique, on sent que tout à l'heure, elle se mêlait très fortement à la physique, à la science, là, à la production intellectuelle, voire politique. C'est-à-dire que vous avancez absolument sur tous les fronts. Vous ne concevez la création que dans cette espèce de très très large spectre, Thomas Saraceno.
Oh, no lo sé, pero tal vez, ¿no? Es
como, peut-être.
Me parece que hay veces que estamos muy,
j'ai l'impression qu'il y a des moments où on s'enferme dans une seule et même discipline, c'est-à-dire que chacun a ses connaissances et ne s'aventure pas ailleurs et se conforte dans ce qu'il connaît. Non, là, c'est pas moi, je suis dans un aliment qui ne me correspond pas, je ne suis pas à l'aise, je ne veux pas mettre là-dedans. Et c'est vrai qu'on a du mal à mélanger dans d'autres disciplines ou s'approcher à des connaissances qui ne sont pas bien acquises, qui ne sont pas si connues que cela. Je crois que c'est ce mélange qui permet d'arriver à de nouvelles connaissances et c'est cette prise de risque qui nous permet d'avancer. Et je crois que dans l'art aussi, si l'on se met en danger, si on n'est pas totalement conscient de ce que l'on veut faire et là où on va, on produit quelque chose de nouveau. Et puis avec beaucoup plus d'intensité. Et puis il y a des questions qui se présentent et auxquelles on doit répondre et qu'on ne peut pas mettre de côté. Pour moi, je pense que cela solidifie en fait le résultat.
À quel point êtes-vous attentif dans la manière dont vous produisez vos expositions ou vos œuvres d'art ? Est-ce que ces dimensions ou cette conscience politique, elle intervient aussi dans la manière dont vous produisez vos expositions et vos œuvres artistiques, Thomas Saraceno ?
Je me souviens du livre de Félix Gattari, non ?
Je pense au livre de Félix Gattari. Il parlait de trois psychologies. Il y a l'écologie environnementale, sociale et mentale. Donc il parlait de ces trois écologies. Et je pense qu'il faut que les œuvres se retrouvent ou résonnent dans ces trois domaines, ces trois différents rythmes écologiques. On va voir ce qui se passe pendant ces trois mois.
Merci beaucoup Thomas Saraceno. Donc cette exposition On Air est visible en ce moment au Palais de Tokyo à Paris. Et puis on peut signaler, comment vous appelleriez, c'est une sorte de revue, non, c'est le magazine du Palais de Tokyo à l'intérieur duquel on peut trouver des visuels de votre travail, mais aussi des textes, et par exemple de Bruno Latour, puisqu'on l'a... C'est pas exactement un catalogue, quoi.
Sí, no, me gusta que es una revista.
Oui, j'aime bien ça. Le dire que c'est un magazine, c'est bien ça. C'est plus économique, c'est plus facile d'accès. Et je pense que les textes et toutes les contributions sont excellentes. Donc, oui,
c'est le mag. C'est le mag de l'expo. OK. Merci beaucoup et merci à vous, Paloma Gumo.
Muchas gracias.
Merci.
Скучно вам, мне тоже скучно с самим собою, неразлучный я из Китая, из Павла. У вас много желчи, я ей полный.
Au son ce soir, c'était Lidwin Caron, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h, quand vous voulez, dans tous les sens, sur franceculture.fr, pour les podcasts, pour les références des archives, celles des musiques, la réécoute des émissions, et même un endroit pour nous écrire. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Marianne Chassor, Romain de Bec-de-Lièvre et Anna Baron, qui m'ont aidé à penser et préparer cette émission, et les autres. Très belle soirée sur France Culture. Thank you.
плачу я истошно. Инертно жить существовал бесцельно. Как так можно? Зачем сарказм, зачем гротеск, зачем вся эта фальшивость? Полы висели, взгляд улыбки. Я тоже совершал ошибки, боль в солнечном сплетении.